Eh bien, shalom, bonjour à tout le monde. Nous continuons notre pénétrante étude du Orota Kodesh et nous sommes toujours dans le premier volume. Et nous allons faire quelques considérations sur le chapitre Vav, qui traite d'un sujet qui en fait touche à d'autres matières dont le Rav Fuchs s'est occupé. C'est entre autres les rapports entre la science et la Torah. Il faut dire que le Rav Fuchs a une attitude par rapport à la relation de la science à la Torah extrêmement adulte et très différente des approches parfois naïves et parfois même, on est bien obligé de le dire, infantiles que l'on peut trouver dans la dialectique dite religieuse autour des relations de science et de Torah. Et là, je vais être obligé donc de faire un petit parcours au départ. Il y a, à propos des relations entre la science et la Torah, il y a 6 approches différentes. Avec un S, n'est-ce pas ? D'accord. Shalom, nous nous retrouvons pour notre pénétrante étude du Orot HaKodesh, comme d'habitude. Et je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet dont parle le Rav très, très longuement et très profondément dans le 6e chapitre, le chapitre Vav du premier volume, et qui a trait à un sujet peut-être un peu plus large, celui des relations entre la science et la Torah, le développement scientifique et la Torah. Alors évidemment, ce n'est pas ici le sujet central, mais comme ça... C'est contingent, ça touche à notre sujet, alors il faut que je fasse un petit détour. Le Rav Kook a une approche des relations de la science et de la Torah extrêmement adulte, extrêmement mûre, contrairement à des approches que l'on peut qualifier soit de naïves, et même, on est bien obligé de le dire, d'infantiles, par rapport à ces questions-là, ce qu'on peut trouver dans la dialectique dite religieuse. Et là, je voudrais donc faire un petit résumé des différentes approches pour pouvoir comprendre, pour être mieux de comprendre ce que dit le Rav Kook. Dans les relations entre la science et la Torah, nous avons 6 approches différentes, une demi-douzaine d'approches. Donc, je tiens à signaler dès le départ qu'il y en a 5 qui ont ça de commun qu'elles sont fausses, tandis que celle du Rav Kook est la 6e et la bonne. De quoi s'agit-il ? Alors, nous avons tout d'abord, dans les 5 premières approches, nous avons 2 sortes d'approches, les 4 premières et la 5e. Les 4 premières sont les suivantes. Tout d'abord, certains disent, eh bien, étant donné que la Torah et la science sont contradictoires, puisque les données enseignées par la Torah sont différentes des données de la science, je vais prendre pour cela donc 2 exemples, l'âge du monde et l'origine de la vie, puisque, selon cette approche, la Torah dit que l'homme vient de la poussière et non pas du singe, que le monde est vieux de quelques 6000 ans, tandis que la science a prouvé que l'âge du monde est de 15 milliards d'années et que l'homme vient d'un animal simiesque. Eh bien, ça voudrait donc dire qu'il y a contradiction entre la Torah et la science et qu'il faut choisir. Alors, la première approche consiste à dire que, étant donné que la Torah est vraie, cela veut dire que les scientifiques ont tort. Ça, c'est la première approche, et donc cette approche fait fi de tous les développements scientifiques. De toute manière, tout cela est faux, puisque la Torah nous a déjà révélé la vérité. La deuxième approche consiste à dire, étant donné que la Torah et la science sont contradictoires et que la science est prouvée, ça prouve que la Torah est fausse. Il y a effectivement cette approche qui est exactement le répondant de cette première approche. La troisième approche consiste à dire que la Torah et la science sont certainement en accord. Et d'ailleurs, tout ce que dit la Torah est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que les tenants de cette opinion amèneront des preuves dites scientifiques que le monde n'est vieux que de 6000 ans. Ou des preuves dites scientifiques que la théorie de l'évolution darwinienne est fausse et donc que l'homme ne vient pas du singe mais vient de la poussière. La quatrième approche considère que la science et la Torah sont tout à fait conciliables et d'ailleurs les opinions des scientifiques sont exactement celles de la Torah. Et alors les tenants de cette opinion amènent différents midrashim, différentes sources, comme quoi par exemple l'homme, étant donné que d'après le midrash avait une queue au départ, ça veut donc dire que les chachamim ont admis la théorie de l'évolution, ou bien ils amèneront des citations kabbalistiques comme quoi le monde serait vieux de plusieurs milliards d'années et donc la Torah est tout à fait d'accord d'après cette quatrième approche avec les théories scientifiques. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très simple à discerner, nous allons faire un petit résumé. Les deux premières approches considèrent donc que la Torah et la science sont contradictoires et qu'il faut choisir entre la science et la Torah. La troisième et quatrième opinion considèrent que la Torah et la science sont en accord, tout problème est de savoir est-ce que c'est la science qui est en accord avec la Torah ou la Torah qui est en accord avec la science. Et le dénominateur commun de ces quatre opinions est le même, c'est que la Torah et la science parlent de la même chose. C'est-à-dire, la Torah, aussi bien que la science, sont préoccupés de savoir l'âge du monde et l'origine de la vie, l'origine biologique de la vie. Il y a en cela une grave erreur, parce que la Torah n'est pas un livre scientifique et les scientifiques ne sont pas des hommes de Torah. La Torah ne s'occupe pas de nous dire comment fonctionne le monde, c'est pour ça qu'il y a des laboratoires et des théories scientifiques, et les scientifiques ne nous disent pas la signification du monde. La signification du monde, c'est la Torah qui nous en parle. Et donc, essayer d'amener une corrélation, soit une contradiction, soit même un accord entre la Torah et la science, en vérité, est totalement absurde. Parce que c'est comme si on voulait mettre en accord, par exemple, la poésie avec les théorèmes mathématiques. C'est deux choses tout à fait différentes. Il y a donc une cinquième approche, qui est un peu plus adulte que ces quatre premières approches, qui est celle, qui est fausse aussi, je vous le dis tout de suite, c'est celle du professeur Yeshayahu Leibovitch qui dit que, étant donné que la science appartient à ce qu'on appelle les sciences humaines, Madaé à Rouar, comme on dit en hébreu, et que les théories scientifiques appartiennent à ce qu'on appelle les sciences exactes, Madaé à Teva, les sciences de la nature, donc il n'y a pas de rapport entre la science et la Torah. Voilà, ça c'est la cinquième opinion, qui, bien qu'ayant pas mal de bien fondé, est quand même basée sur une erreur. C'est d'avoir oublié que celui qui a créé la science est le même qui nous a donné la Torah. C'est le même créateur du monde. Et donc, il serait quand même surprenant qu'il s'exprime par deux canaux totalement déconnectés l'un de l'autre. C'est pour ça que nous sommes obligés d'en arriver à l'opinion du Rav Kook. L'opinion du Rav Kook est faite de, si vous voulez, de deux paragraphes. On pourrait dire petit a et petit b. Pour le Rav Kook, le petit a, c'est il n'y a pas de rapport entre la science et la Torah. Le petit b, il y a un profond rapport entre la science et la Torah. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il semble y avoir une contradiction entre le petit a et le petit b, que nous allons tout de suite mettre en accord. Il n'y a pas de rapport entre la science et la Torah du point de vue des faits scientifiques. C'est-à-dire, la Torah n'est pas remise en question ou elle n'est pas affermie par telle ou telle donnée scientifique. On peut dire, de ce point de vue-là, Leibovitch a raison, il y a déconnexion de la Torah et de la science. Comme disait, par exemple, le Rav Kook dans Arpi de Torah, un de ses livres, si la science moderne peut se targuer de s'être libérée de la théologie, il faut également qu'elle sache, cette dite science, que la théologie s'est dégagée de la science. C'est-à-dire, alors qu'au Moyen-Âge, on pensait qu'il y avait une conséquence métaphysique à toute théorie physique, qu'on trouve d'ailleurs encore chez Maïmonide, chez le Rambam, eh bien, de nos jours, il y a déconnexion de la science et de la Torah, ce qui libère la Torah de l'entrave de la science, et qui permet donc un retour à l'authenticité originelle de la parole prophétique. Cependant, nous dit le Rav Kook dans le petit b, étant donné que c'est le créateur du monde qui a créé son monde en vertu, en fonction de la nature, selon des lois naturelles, qui est le même qui nous a donné la Torah, il y a évidemment un rapport profond entre le développement scientifique, la découverte scientifique, et les profondeurs de la Torah. Et là, je voudrais vous citer un enseignement du deuxième volume de Orot HaKodesh, qui a fait beaucoup de bruit, dans lequel nous avons un soutien apporté par le Rav Kook à la théorie évolutionniste. De quoi s'agit-il? Vous savez bien que, depuis le XIXe siècle, s'est développée cette théorie, essentiellement chez Darwin, mais il y a chez d'autres aussi, comme quoi la vie serait apparue sur Terre de manière graduelle. Il y aurait eu d'abord des formes extrêmement primitives de vie, qui finalement, après tout de nombreux développements, seraient arrivées à l'apparition de l'homme sur Terre. Cette opinion, qui a choqué beaucoup de religieux, en fait, n'a absolument rien de contradictoire avec la Torah, non pas parce que la Torah dit que la théorie de l'évolution est juste. En fait, c'est simplement parce que la Torah n'a rien à dire sur la manière dont la nature fonctionne. Tout ce que dit la Torah à propos de la création de l'homme nous parle de l'homme en tant qu'entité morale, en tant qu'entité métaphysique. Il est important de savoir qu'il y a dans l'homme un élément de poussière et un élément de souffle divin. C'est ça que nous raconte la Torah dans le deuxième chapitre de Bereshit, au verset 7, quand elle nous dit « Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar mina adama » Dieu a créé l'homme, poussière, à partir de la terre, « Vayipar bapav nishmat raim » et a insufflé en lui un souffle de vie. Comment est-ce que cette terre est devenue le corps humain? Ça, c'est aux scientifiques de nous le dire, ce n'est pas à la Torah de nous le dire. Cependant, ce qui est important pour le Rav Fuchs dans la théorie de l'évolution, ce n'est pas qu'elle est en accord avec la Torah, ce n'est pas ça le problème. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. L'idée même d'évolution est importante pour le Rav Kook. En effet, chez les kabbalistes, depuis des siècles, depuis des milliers d'années, on peut dire, on enseignait que la manière dont Dieu se manifeste dans le monde et dans la manière dont il crée son monde est ce qu'on appelle ishtalshelut, une sorte de chaîne de révélation. Et ça ressemble, dans le domaine métaphysique, non pas dans le domaine physique et biologique, mais ça ressemble dans le domaine métaphysique à l'évolution. Or, cette idée que Dieu agit de manière graduelle, comme dit la Gemara, kim'a, kim'a, petit à petit, est une idée qui était bien connue dans les cercles de quelques élites, mais qui n'était pas facilement assimilable à la multitude. La multitude préfère voir l'action de Dieu à la manière d'un enchanteur qui, par un coup de baguette magique, fait apparaître le monde. Et justement, le fait que la théorie de l'évolution est devenue populaire, c'est ce qui a permis aux gens de s'accoutumer à l'idée de la ishtalshelut qu'on trouve chez les kabbalistes. Donc pour le Rav Kook, l'intérêt du darwinisme n'est pas dans la donnée scientifique qu'il donne, mais dans la transformation mentale qu'il entraîne dans la multitude. De fait que, pour le Rav Kook, l'apparition du darwinisme est un bienfait. Est-ce que le darwinisme est vrai ou pas? Ça, le Rav Kook laisse cette question aux scientifiques. On pourrait même dire que, du point de vue du Rav Kook, si un jour on apprend, pour des raisons scientifiques, que le darwinisme est faux. Alors, le Rav Kook dira, c'est bien dommage, mais nous continuons malgré tout à croire en la Torah. Ça voudra dire simplement que la nature et le métaphysique ne sont pas en corrélation directe. Mais ce n'est pas grave. Après avoir donné cette introduction un peu longue, nous allons maintenant rentrer dans le détail du chapitre Vav, qui nous parle, qui porte ici un nom intéressant, Ha'arat Ma'ase Bereshit ou Ma'ase Merikava, la lumière de l'œuvre de la création et de l'œuvre du chariot. Bon, alors vous connaissez ces expressions, elles sont tirées de la Mishnah. Les secrets de la Torah sont appelés Ma'ase Bereshit, c'est-à-dire œuvre de la création. Et c'est ce qui explique en profondeur le premier chapitre de la Torah qui nous parle de la création du monde. Et il y a également des secrets qu'on appelle Ma'ase Merikava, les secrets du chariot divin, qui c'est le chariot dont parle le prophète Ézéchiel dans le premier chapitre du livre de ce nom. Et donc, ces secrets-là sont réservés en général, enfin toujours, à des élites. Il n'y a que quelques élus qui ont le droit d'entrer dans les profondeurs de ce qu'on appelle Ma'asé Bereshit et Ma'asé Merkava. Cependant, il y a des idées qui auparavant étaient diffusées uniquement dans un petit nombre, qui par la force des choses, grâce au développement scientifique, deviennent finalement l'héritage de l'ensemble de la multitude. Alors, de quoi s'agit-il? Là, je voudrais vous lire ici ce premier, premier paragraphe. Le voici. Keshe Achakira Hamadaït, lorsque le développement scientifique, Holechet Umotzet Diyuki Mechuvanim Betor Ha'alilot Kulam Shelatou Bavou, découvre des précisions orientées dans les profondeurs du Tohu et du Bohu. De quoi parle le Rav Kook? Ben, simplement, aujourd'hui, la science de plus en plus s'intéresse aux origines de l'univers, ce qu'on appelle la cosmogonie. Et donc, on peut dire que les théories cosmogoniques permettent de plus en plus de comprendre la manière dont le créateur du monde agit à travers le désordre originel, dans la nébuleuse de l'origine. Keshekol atnuot sheovot veshitavu baolamim lefni yitzirata magimura. Lorsque tous les mouvements qui se forment et qui se sont formés dans les mondes avant leur plein achèvement, correspond tellement à la finalité de l'achèvement du bâtiment dans sa perfection. C'est de quoi parle le Rav Kook, c'est l'expression un peu, le style du Rav Kook est un peu difficile à comprendre. Il veut dire quand nous voyons à travers les mutations par exemple biologiques où à travers les nébuleuses originelles des planètes, nous voyons comment est-ce que la vie commence à apparaître et comment finalement la moralité fait son jour pour permettre finalement l'apparition du peuple d'Israël et la connaissance de Dieu sur Terre. C'est-à-dire, on voit qu'il y a ici une sorte de chaîne extrêmement longue de plusieurs milliards d'années qui montre à quel point la providence divine fait son chemin à travers les vicissitudes du monde. C'est comme ça que la sagesse de l'œuvre de la création commence de plus en plus à être une sagesse révélée chez Nidreshet Barabim, qui est enseignée en public, et qui donne de la vitalité à de nombreux esprits. Et cela va tellement loin que finalement, je saute ici quelques lignes, on en arrive à cette conclusion du Rav Kook. Ad she'i efshar od lehasbir gam emuna pshuta l'anashim benoniim. On en est arrivé à ce point qu'on ne peut plus aujourd'hui enseigner une foi simple à des esprits moyens qui imalpi arhavat atzahat rezelion que en popularisant les secrets suprêmes. Shem omdim verumo shel olam, qui sont au sommet de ce monde. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui enseigner à quelqu'un de quelle manière il doit connaître le Créateur, que doit-il faire pour connaître Dieu, eh bien, on ne peut pas lui parler de foi, comme je rappelle en français la foi du charbonnier. On est obligé de passer par une sorte d'adaptation, pourrait-on dire, des secrets de la Torah à la conscience populaire. Ça, c'est ce qu'on appelle Maase Bereshit. Et ça va encore plus loin. Ufitrea Shearim shel Maase Bereshit, les ouvertures que nous donne l'œuvre de la création, hem gormim atzmim liftichat sha'arei ma'aseh merkava, sont les causes intrinsèques de l'ouverture des portes de l'œuvre du chariot. C'est quoi l'œuvre du chariot? Shei anhara eliona, qui est l'illumination suprême, a mesagelet et achushim et aritzonot et aakarot et aargashot, qui adapte les sens, les volontés, les consciences et les sentiments, les aches beome karayoniut aetana, de s'attacher à la profondeur de la réflexion, mekor chaim tmimim venitzriim, qui est la source d'une vie parfaite et éternelle. Atcha chaim olchim beome tzkdushatam, à tel point que la vie va dans la puissance de sa sainteté, les natser kulo et amavet, jusqu'à finalement vaincre la mort. Veatom amtikulo et kolara kalil, le bien adoucit entièrement le mal. C'est-à-dire, il y a cette idée qu'à travers le développement de la conscience humaine, il y a une telle puissance de vie qui se manifeste que finalement, même la mort sera un jour vaincue. On ne peut pas être frappé par le fait qu'ici, le Rav Kook rencontre une autre pensée contemporaine de la sienne, celle du philosophe Henri Bergson, qui lui aussi parlait de l'évolution créatrice qui un jour allait amener à la disparition de la mort. Petite remarque historique, il y avait un chercheur du nom du docteur Kaminka qui a écrit dans un des journaux philosophiques de son temps en Allemagne que la pensée du Rav Kook, qui commençait à être connue, ressemble par certains aspects à celle du philosophe Henri Bergson. Le Rav Kook a répondu au docteur Kaminka: « Je suis très intéressé de voir qu'il y a des correspondances entre ma pensée à moi et celle des meilleurs des penseurs des fils de Japhet, mais sache que toutes mes pensées ont pour origine Aholeshem, les tentes de Sem. » C'est-à-dire que ça ne vient pas de la philosophie, ça vient des profondeurs de la Torah. Et donc ce que dit ici le Rav Kook, c'est que nous sommes invités par ces développements à un approfondissement de la pensée, à un approfondissement de la Torah, et de ne pas reculer devant des difficultés tirées de l'habitude. C'est la connaissance des profondeurs de la Torah qui va nous mettre à même d'utiliser et d'exploiter au mieux les développements de la pensée humaine, philosophique et scientifique de nos jours. Shalom. Petit complément de ce que nous avons parcouru. Quelques petites remarques à propos du développement scientifique dans la pensée du Rav Kook. On a déjà parlé du darwinisme. Je voudrais également parler du développement des connaissances cosmologiques, telles que par exemple la révolution copernicienne, l'âge du monde, tout ce qui a été découvert à ce propos. Pour le Rav Kook, dans ses igrottes, dans les épîtres du Rav Kook, dans sa correspondance, il y a certaines considérations, par exemple, par rapport au fait que la Terre était connue comme plate. la Terre était plate à un moment et elle est devenue ronde à cause des Grecs. Et pour le Rav Kook, ben c'est très bien que l'homme de l'Antiquité, enfin l'homme primitif, ait cru que la Terre était plate, parce que ça permettait de stabiliser son esprit. C'est-à-dire qu'il était absolument impensable pour un homme de préhistorique qui n'était pas capable de faire la différence entre la conception abstraite et les sensations, de se dire qu'il était sur un globe qui était en train de courir à toute vitesse dans l'espace. S'il avait compris cela à un moment, il aurait été affolé, il se serait attaché aux arbres pour ne pas tomber. Donc on peut dire que l'ignorance de la rotondité de la Terre était une chose très importante au début, dans les premiers balbutiements de l'humanité, jusqu'à ce que se développe l'esprit scientifique qui permet de comprendre à la fois que la Terre est ronde et pourtant qu'on est sur un terrain plat. Ça, c'est quelque chose qui peut être assimilé par l'homme plus développé. Cependant, il était quand même important, dit le Rav Kook, que l'idée centrale sur le plan scientifique est que la Terre est au centre du monde et qu'elle est immobile et que l'on pensait que les planètes tournaient tout autour. Ça permettait à l'homme de s'imaginer qu'il était vraiment le centre du cosmos, et ce qui lui donnait donc une responsabilité morale très importante. Ça donnait un sens à sa vie, à la connaissance de Dieu et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que, étant donné que l'homme n'était pas capable de faire la différence entre sa place morale dans le monde et sa place physique dans le monde, il était important que dans les débuts de l'histoire, même après le développement de l'esprit scientifique, l'homme continue pendant très longtemps à penser qu'il était lui, physiquement, au centre de l'univers. Et puis un jour, les choses se sont développées, l'homme est capable d'assimiler encore plus la grandeur de la création du monde, et c'est alors que le moment était venu de lui révéler qu'il n'était pas le centre du monde, qu'il tournait d'abord autour du soleil, comme a révélé Copernic. Très important pour que l'homme soit capable justement de comprendre que dans le monde, il y a la place pour d'autres que lui, ce qui lui donne de l'humilité. Petite remarque, à ce propos, le Rav Kook dit du bien de Maïmonide. Vous savez que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, a tout un chapitre dans lequel il affirme, avec force, que l'homme n'est pas le centre du monde. Que le centre du monde se trouve ailleurs si, Bichlal, il y en a un. Et le Rav Kook, dans un de ses articles sur le Rambam, dans le Mamre Riya, nous dit qu'il faut remercier le Rambam d'avoir publié cette opinion. Parce que cette opinion du Rambam était publiée à l'époque où scientifiquement on pensait que l'homme était au centre du monde. Et il est important que le Rav Kook, avant Copernic, ait dit que le fait de mettre l'homme au centre du monde n'est pas le fondement de la foi. Qu'il y a un sens à la foi, à la Torah, aux mitzvot, même si l'homme n'est pas le centre du monde. Par contre, si cette opinion avait été publiée après Copernic, alors la critique aurait dit, bien sûr, c'est parce que le monde scientifique a changé que vous avez inventé cette opinion. Donc il faut remercier le Rambam d'avoir précédé Copernic dans cette affirmation-là. Et puis, le monde va de plus en plus loin. Il est capable maintenant de comprendre que non seulement l'homme n'est pas au centre du système solaire, que le système solaire a la Terre pour circonférence, mais ça va beaucoup plus loin, que le monde entier, notre monde à nous, notre monde planétaire, n'est qu'une poussière dans des milliers de millions de milliards de galaxies gigantesques que l'homme ne connaîtra probablement jamais. Cela ouvre encore plus l'esprit. Il est significatif que cette connaissance a commencé à se développer à partir de la deuxième partie du 19e siècle. Or, ça correspond tout à fait à l'enseignement du Zohar. Le Zohar nous dit que à partir de l'an 600 du 6e millénaire, c'est-à-dire à partir de l'année 5600, qui correspond dans le décompte chrétien à l'année 1840, la sagesse commencera à se développer dans le monde, les sources de la sagesse s'ouvriront en haut et en bas, et le monde se préparera à rentrer dans le 7e millénaire. Il est surprenant de voir que le développement scientifique, et donc le développement technologique que ça a entraîné, sont contemporains du retour d'Israël à sa terre. Les premiers balbutiements du proto-sionisme ont commencé en même temps que ce développement scientifique. Ce qui veut dire que le monde dans lequel Dieu agit est un monde unique. Il y a une correspondance entre le développement de la vie d'Israël, et donc de la vie de l'humanité, et le développement des connaissances scientifiques et un approfondissement des connaissances de la nature, ce qui correspond tout à fait à la vision synthétique, monothéiste et englobante du Rav Kook. Shalom.